Canalem, on aime l'été.
Bonjour à toutes et à tous. Bonjour François Baruel.
Bonjour Clotilde Say.
Clotilde, oui, en votre compagnie avec François pour vous présenter encore une fois aujourd'hui Aime l'été avec cette magnifique journée sur le Québec. Je vous en souhaite une aussi belle où que vous soyez sur le territoire d'est en ouest. François, aujourd'hui, beaucoup de choses encore à l'émission.
Oui.
On appelle ça les perséides, mais ce n'est pas vers les étoiles qu'on va bien poser nos yeux, mais sur des toiles, on parle de cinéma et ça se passe à Percé. Qui dit chaleur dit suer et dit aussi moyen de se rafraîchir. Ça, ce sera avec vous.
Oui.
Chronique de François Baruel. Des nouvelles de qui roule avec sa présidente, Isabelle Ducharme. Les 60 ans d'Astérix, ça, c'est un anniversaire qui mérite d'être souligné et qui donne lieu, oui, c'est le prétexte, à deux livres audio sortis chez Audiolib. Il y aura même un extrait où vous retrouverez quelques bouts de films célèbres faits sur Astérix et également des extraits de ces livres audio maintenant proposés chez audiolib.fr. Il y aura un psycho billet sur les biais cognitifs d'Emmanuel, comme tous les mardis. Et puis, ex-muro, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qui se cache derrière certains murs et passages de la vieille capitale? Là encore, on va aller jeter un œil et une oreille là-dessus.
Sur l'écran noir de mer, nuit blanche, moi je me fais du cinéma, sans pognon et sans caméra. Brando peut partir en vacances, ma vedette c'est toujours toi. Pour te dire que je t'aime, rien à faire, je flanche. J'ai du cœur, mais pas d'estomac. C'est pourquoi je prends ma revanche sur l'écran noir de mes nuits blanches. Je me fais du cinéma. Parfois on sonne, j'ouvre, c'est toi. Mais je te prends par les hanches, comme sur l'écran, mais nuit blanche, non, non. Je te dis comment ça va. Et je t'emmène au cinéma.
Bonjour François Cormier.
C'est vrai que j'ai pas des annonces,
oui,
mais ça fait rien, je le ferai après.
Vous êtes bonjour, merci beaucoup d'être avec nous sur M l'été Canal M. Vous êtes le directeur général artistique responsable du festival des Perséides.
Oui.
Et alors donc c'est la 11e édition maintenant.
Oui, 11e édition du festival de cinéma qui est Les Perséides, qui est un festival international de cinéma d'auteur, qui a été créé en 2008 à Percé, en Gaspésie. Donc, c'est ça, on prépare là, notre édition. On attend beaucoup d'invités, beaucoup de monde. Là. À Percé, au mois d'août, c'est souvent très achalandé.
Mais quelles sont les orientations, disons, artistiques de cinéma d'auteur?
Ben, en fait, c'est un festival qui veut mettre en lumière le jeune cinéma d'auteur contemporain, donc émergent aussi. On présente souvent des premiers, deuxièmes, troisièmes films de réalisateurs et de réalisatrices qui en sont soit à leur premier court-métrage ou à leur premier long-métrage. Et on les invite aussi au festival pour qu'ils puissent venir rencontrer notre public, nos cinéphiles. Et aussi, on présente bien sûr là, toute une sélection de films de réalisateurs confirmés, des films souvent qui ont gagné là, des prix dans des grands festivals de films comme Cannes, Berlin, Locarno, Venise et tout ça. C'est des films, en fait, le mandat du festival, c'est de rendre accessible le cinéma d'auteur en Gaspésie parce que c'est en Gaspésie, c'est très difficile là, de voir tous ces films qui sont présentés souvent seulement dans les grands centres et qui prennent l'affiche souvent seulement à Montréal et Québec pendant deux semaines ou trois semaines. Donc, le but du festival, c'est vraiment là, de montrer un peu l'actualité cinématographique de la dernière année avec, bien sûr, là, toutes sortes d'événements spéciaux. On a beaucoup de ciné-rencontres qui permettent au public là, de venir. C'est le succès du festival, c'est vraiment la rencontre des artisans qui sont présents.
Et alors, en plus, dans un décor de rêve, hein?
Ça, le décor, on l'a choisi parce que, bon, Percé, pour moi, présentait là, toutes les qualités d'un petit village balnéaire sur le bord de la mer. Il y avait déjà des hôtels aussi qui sont là, tout près du littoral et tout. Donc, c'était parfait là, pour créer une ambiance de festival pour que les invités. Maintenant, il y a beaucoup de monde qui réserve là, eux-mêmes leur petit motel, leur chambre pour venir juste au festival. Ils achètent leur passeport, ils viennent voir tous les films et tout ça. Donc, c'est un contexte, vraiment. Oui. On n'invente pas les festivals, il y en a partout dans le monde. Mais
des percées, il n'y en a pas partout.
On dit souvent que le festival est unique et c'est une vraie expérience. Là.
Alors, vous nous parliez tantôt, François Cormier, de première. Et est-ce qu'on peut parler de celle, par exemple, du documentaire Florent Volant, Faiseur de Macouzam?
Oui, absolument.
Est-ce que ça se prononce comme ça? Macouzam?
Oui, Macouzam, oui.
Macoussin, ok. Alors donc c'est une première pour Florent Volant qu'on connaît bien évidemment comme chanteur hein, ici.
Ouais.
Mais là le voilà parti dans le documentaire. Est-ce que vous pouvez nous en parler un petit peu?
Oui, en fait c'est un documentaire un peu sur tout son parcours personnel, je dirais, parce que lui est né au Labrador. Par la suite, il a vécu sur la côte nord. Donc, c'est un réalisateur gaspésien qui l'a suivi, qui a voulu le rencontrer. Le réalisateur s'appelle Élie Laliberté.
Oui.
Élie est très impliqué là, dans les communautés Mi'kmaq aussi, en Gaspésie, depuis des années. Il a travaillé aussi pour Wapikoni Mobile, qui est un studio mobile là, qui fait des réalise des films avec les communautés autochtones. Donc, il s'est lié d'amitié avec Florent Volant et je pense que pendant plusieurs mois, ils ont fait un parcours un peu sur tout son parcours musical. Donc, c'est un documentaire sur un peu sa vie et aussi la manière dont Florent Volant joue un rôle de transmission auprès des jeunes communautés autochtones pour la musique. Donc, il a créé un genre de petite école là, dans différentes communautés qui permet aux jeunes là, de vraiment s'adonner à leur passion musicale. Il fait de l'enseignement.
Ah oui, c'est...
Donc, il est très...
C'est fantastique ce qu'il fait.
Cette réalité-là.
Oui,
et
oui.
C'est un peu ça que le film nous révèle aussi. C'est extraordinaire. Puis on est très, très honorés et très heureux de pouvoir
le présenter
en première mondiale, en plus, à Percé. Puis je pense que Laurent Volant, il voulait que ce soit en Gaspésie, que le film soit présenté la première fois. Puis ça nous a beaucoup touchés.
Mais oui.
Donc il va être présent, bien sûr, pour la première mondiale qui va avoir lieu le 21 août à la vieille usine de Lance à Beaufils, qui est une deuxième salle du cinéma qui est située à 9 km de Percé, là, près du quai de Lance à Beaufils.
Il y a aussi cette année, en 2019, il y a l'intégration du Centre d'art de Percé.
Oui, ça va être la salle principale qui est le Centre d'art de Percé. On est en train justement là, de préparer toute la scénographie là, pour le transformer en salle de cinéma. Donc, ça a été un centre d'art créé en 1956 par l'artiste gaspésienne Suzanne Guitté, donc qui avait créé un centre d'art jusqu'en 1985. Il y a eu des ateliers d'art visuel, il y avait un théâtre, il y avait un petit cinéma, il y avait des activités là, vraiment effervescentes. Ça a été un joyau là, du patrimoine culturel de Percé pendant des années. Après ça, ça l'a fermé pendant beaucoup d'années. Et nous, on a repris là, le centre d'art depuis 2 ans.
Oui.
Et on veut le transformer. On est en train de le transformer en salle de cinéma d'auteur permanente. Il va y avoir un cinéma-bar aussi dans le lieu. Puis on va le faire revivre, en fait, là, par le cinéma, par le 7e art.
François Cormier, assez rapidement, vous allez, il y a comme tous les ans, l'école de cinéma. Ça va avoir lieu du 11 au 18 août, dirigée cette année par nul autre que Léa Paul et son directeur photo, Pierre Mignot. C'est quelque chose, ça, comme rendez-vous.
Oui, ça c'est complet là, depuis plusieurs mois. On a créé l'école de cinéma l'année dernière parce que on veut qu'en Gaspésie, il y a des formations professionnelles qui permettent aussi de former des artisans pour le cinéma. Et donc, l'école de cinéma d'été, pour nous, c'est un volet un peu de continuité, je dirais, là, de la formation professionnelle du cinéma. Donc, l'année passée, on avait Michel Laveau, qui était un directeur de la photographie quand même assez connu, qui a donné une classe de cinéma de 7 jours en direction de la photographie. Puis cette année, il y avait des demandes pour qu'on puisse avoir une réalisatrice ou un réalisateur pour le domaine du cinéma de fiction. Puis c'est comme ça qu'on a invité là, Léa Paul.
Wow.
Et Pierre Mignot, qui est notre grand directeur photo québécois.
Ben oui, absolument.
Ça a donné qu'il, lui, a travaillé sur plusieurs films avec elle. Et il y a une maison aussi en Gaspésie, à
Penouille,
dans le parc Forillon. Donc, c'est un ami du festival aussi. Il vient quasiment tous les étés au festival.
Wow.
Donc, on lui a dit, pourquoi tu ne te joindrais pas? Parce que Léa voulait avoir un directeur photo. Ben là, j'ai dit, naturellement, ça devrait être Pierre Mignot. Vous avez travaillé ensemble.
C'est comme le premier nom auquel on pense, oui.
Deux maîtres du cinéma qui vont donner leur enseignement. Il va y avoir des tournages, des exercices de direction d'acteurs et tout ça. On a une liste d'attente, quasiment, de quinzaine de personnes. Là, de
François, avant qu'on se quitte, François Cormier, je voudrais qu'on rappelle les dates des Perséides, de ce festival de cinéma d'auteur.
Oui, donc cette année, c'est la 11e édition. Ça a lieu à Percé. C'est du 15 au 25 août 2019.
Percé,
pour les gens des fois qui se demandent, c'est pas Gaspé. Gaspé, c'est la ville un peu au bout de la péninsule.
Oui.
C'est à 45 minutes de Percé.
De Percé.
Le festival a vraiment dû à Percé.
Mais ça vaut le coup quand même d'aller faire un petit tour, de toute façon. Et le grand tour de la Gaspésie, si vous avez le temps. Merci.
Ça, c'est la meilleure façon de venir au festival.
Merci François Cormier.
Beaucoup.
Merci à vous. Très bonne journée.
À vous aussi.
Au revoir.
La citadelle, je veux devenir roi des marécages, sortir de ma cage, un Père Noël pour Cendrillon, sans escarpins. Joli soleil, joli soleil, joli soleil, joli soleil. Ah, 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 ah. Joli soleil, tu sais, elle est joue.
C'est bon, c'est un souvenir que j'avais envie de réentendre, le groupe Au Petit Bonheur. Je veux du soleil, et quand il y a du soleil, il fait chaud, comme on dit ici. François Baruel,
oui.
La transpiration, la fraîcheur,
la fraîcheur,
comment on fait l'eau, comment on fait pour se rafraîchir, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire pour se rafraîchir, c'est ça le but de la chronique.
Alors le but de la chronique, c'est de savoir ce qu'il faut faire en effet, mais avant il faudrait juste faire un petit rappel de savoir pourquoi est-ce qu'on transpire, comment est-ce qu'on transpire et quelle est l'utilité. En fait, il faut bien se rappeler qu'on est à une température, le corps humain est à une température de 37-38 degrés. Mm-hmm. Bon, une petite variation possible. Mm-hmm. Mais à 42, ça commence à devenir mortel. Donc, si on ne peut pas descendre, si on ne peut pas se maintenir entre 37 et 41, c'est mort.
Ouais,
c'est vraiment le mot.
Ouais.
Et le moyen de se rafraîchir, c'est de se refroidir spontanément, c'est la transpiration. La transpiration qui permet d'évacuer les calories et que l'on peut accumuler à l'intérieur de notre corps et qui nous permettent de maintenir cette température. Ça s'appelle l'homéothermie, c'est-à-dire une température constante.
Hein? Ok. Voilà. Autrement dit, chez les chiens, c'est lorsqu'ils allaitent qu'ils se refroidissent.
C'est
nous, c'est la sueur, c'est la transpiration.
C'est la transpiration, c'est la perspiration.
Autrement dit, c'est pas anormal. Quoi.
C'est pas du tout anormal de transpirer. Non. Au contraire, il est même conseillé de transpirer et de ne pas s'empêcher de transpirer. En période de grande chaleur. Et c'est certain qu'il faut plutôt transpirer. Et donc, vous savez, vous avez remarqué, quand on se plonge, par exemple, dans une piscine ou dans un lac, et qu'on sort de l'eau et qu'il y a un petit coup de vent, on a froid.
Oui.
Et ben c'est ça, c'est exactement ça qu'il faut reproduire en permanence. Mmh. Et si on se met à ne plus boire, si on ne s'hydrate plus, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on ne va plus transpirer, ou du moins moins transpirer, et la température, on ne va pas pouvoir la diminuer ou la baisser comme il le faut. Et c'est à ce moment-là qu'on commence à avoir une température qui monte, qui monte, qui monte. Et le coup de chaleur est au bout du chemin.
C'est pour ça qu'on dit toujours aux gens, si vous êtes en contact avec, pendant plusieurs heures avec la chaleur, buvez, 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 parce qu'il faut à tout prix éliminer cette eau-là, finalement.
Exactement. Et il faut qu'il y ait une petite pellicule d'eau sur le corps, de manière à pouvoir refroidir. Il y a une chose qui est très nette, c'est dans un sauna, par exemple. On supporte très bien une température de 90 degrés. L'air est à 90 degrés sans aucun problème. Mmh. On le supporte très bien parce que c'est sec, mais on transpire. Mais la transpiration disparaît instantanément. Alors que dans un hammam, par contre, dans un hammam, quand la température est à 38-40 degrés, elle est tellement saturée d'eau qu'on ne peut plus se refroidir. Et c'est pour ça qu'on ne peut pas rester longtemps dans un hammam et que c'est intolérable, en fait. Parce qu'on ne peut plus se refroidir. Ah. Dans un sauna, on peut se refroidir. Quand on va dans le Sinaï, il fait 40, 50, c'est pas grave, on boit. Et puis, on n'a pas vraiment tellement chaud et on transpire. Mais par contre, quand on est dans la forêt amazonienne et qu'il fait une humidité épouvantable, on crève de chaud et on n'arrive pas à l'éliminer. Donc, l'idéal, c'est d'être dans un endroit sec avec une transpiration constante. Et si on n'a pas cette transpiration, donc on ne va pas bien. Donc il faut boire. Mais en même temps, quand on transpire, on perd du sel.
Oui.
Donc il ne faut pas boire que de l'eau pure. Il faut aussi, au bout d'un moment, il faut quand même compenser en buvant aussi de l'eau avec un petit peu de sel.
C'est pour ça qu'on en donne d'ailleurs aux sportifs, toutes les boissons salées.
Voilà, c'est ça. Oui. Des boissons salées, de manière à ne
pour
pas...
Pour se réhydrater.
Pour se réhydrater et pour que l'eau... Voilà. Et donc, parce qu'en fait, si on diminue sa quantité de sang, c'est-à-dire la transpiration, si on se déshydrate, il va y avoir ce qu'on appelle une hypovolémie, donc une baisse du niveau de la quantité de sang, donc une moins bonne qualité de fonctionnement cardiaque.
Bien sûr.
Et on va se retrouver ensuite un peu moins bien cérébralement.
Ah.
Et donc, quand on est un peu abruti au soleil, qu'on se dit je j'aimerais bien dormir un petit peu au soleil, etc. Faire attention, ça.
Ah oui, bien sûr.
Très attention, parce que c'est là qu'on se déshydrate.
C'est ça le coup de chaleur.
C'est ça le coup de chaleur qui débute, exactement.
Et l'insolation ?
Là, c'est l'insolation, c'est vraiment la chaleur sur le crâne et avec une inflammation du tissu cérébral, l'enveloppement du tissu cérébral. Là, c'est un autre phénomène. C'est vraiment inflammatoire. Tandis que le coup de chaleur, c'est la déshydratation et la perte de sel. La perte de sel, ça fait pas mal perdre ses capacités intellectuelles, quand même.
Ah oui.
Oui, ça, c'est vraiment impressionnant. Donc, il faut se réhydrater et selon la quantité de transpiration perdue. Et parfois, on peut transpirer 4 litres par jour. Donc, il faut le savoir, ça. Donc, il faut
4
vraiment...
litres.
Oui, il faut savoir ça. Donc, si on rôtit au soleil sur la plage, il faut vraiment avoir beaucoup d'eau. De toute façon, après avoir fait un voyage ou un trek ou une randonnée dans un endroit très ensoleillé, on prend toujours de l'eau. Oui. Et si on n'en prend pas, mais on a vite la bouche.
Bien sûr, bien sûr. Et excusez-moi, je n'arrête pas de vous interrompre. Alors
je
qu'il
vous
avait
en prie.
Tout préparé son affaire,
mais
le petit François.
Du tout.
C'est vrai, c'est parce que là, il y a des gens qui, au lieu d'aller prendre un bon verre d'eau, vont aller se taper une bonne bière, par exemple.
Alors voilà, justement, c'était la chose qu'il fallait dire.
Bon, c'était la chose qu'il fallait dire.
Il fallait en parler, absolument.
Bon, parce que là, ils disent, c'est toujours bien du liquide.
Ben oui, mais il y a de l'alcool dedans. Et en fait, c'est diurétique. Et ça provoque une déshydratation supplémentaire. Finalement, on n'absorbe pas et on ne garde pas la quantité d'eau qu'on absorbe. On ne la garde pas, cette quantité d'eau-là. Et on se réhydrate beaucoup moins que ce qu'on pense. D'autant plus que l'alcool a des effets qui sont très augmentés sur le crâne, enfin dans le cerveau, avec la température. Donc, c'est vraiment à éviter l'alcool quand il fait chaud. Le rosé bien frais.
Pourquoi vous me regardez comme ça? Non, mais il va me faire possible.
C'est toujours très agréable, le rosé bien frais. Mais il faut limiter quand même la quantité.
Oui, puis ça, c'est difficile parce que le rosé, c'est comme de l'eau.
C'est comme de l'eau. C'est du jus de raisin, c'est bien connu.
Est-ce que je ne sais pas ce que vous aviez pensé nous parler de ventilation, de climatisation, tout ça,
c'est très important, la climatisation, c'est très important pour les enfants, les bébés, pour les adultes un peu moins, mais bon, parce qu'ils savent se rendre compte, quand ils ont vraiment très chaud ou pas, et pour les aînés, ça c'est très important de les refroidir de l'extérieur, parce qu'en fait, premièrement, ils transpirent parfois un peu moins, les aînés transpirent un peu moins, les bébés n'ont pas soif, les aînés non plus d'ailleurs, donc il faut les ventiler et les réhydrater en permanence. Mmh. Mais la ventilation, la climatisation, et la ventilation, il ne faut pas l'oublier ça, la ventilation et la climatisation sont des déshydrateurs aussi. Ah. Donc il faut tenir compte de ça. C'est-à-dire que ça permet de refroidir la ventilation et la climatisation, mais ça fait perdre aussi de l'humidité, c'est-à-dire de l'eau. Donc il faut compenser cette eau. Et quand on se ventile avec un ventilateur devant soi ou la clim, il ne faut pas oublier de boire quand même.
Et on entend toutes sortes de choses sur le ventilateur, que c'est pas bon, que ça crée des torticolis, que, etc., qu'on peut attraper des rhumes, que je sens, en tout cas, que sais-je encore. Qu'est-ce que vous en pensez?
Parce que ce sont des ventilateurs qui sont utilisés à trop haute dose. En fait, il faut des ventilateurs avec un tout petit vent coulis de rien du tout, une petite brise comme
ça. Un petit, comment vous avez...
vent coulis.
Petit vent coulis.
Un vent coulis.
Voilà, un petit vent coulis, c'est absolument délicieux.
C'est le vent coulis qui évite le torticolis.
Ah.
Non. Parce que si on met un ventilateur trop fort, c'est vrai que là, ça peut provoquer des contractures musculaires si on l'envoie directement, par exemple, dans le cou. Ça, c'est vrai.
Exactement comme quand on ouvre les fenêtres dans une voiture.
Dans une voiture, c'est beaucoup plus de turbulence et les jets sont quand même très variables.
Ah.
Tandis que avec le ventilateur, s'il est orienté uniquement vers un endroit, c'est très mauvais. Alors, ce qu'il faut dans ce cas-là, si c'est vraiment uniquement dans un endroit, par exemple au plafond, c'est très bien, mais il faut qu'il tourne doucement, tout doucement. Il ne faut pas sentir forcément le vent. C'est pas la peine, il faut des petites turbulences de rien du tout qui permettent simplement à l'air qui est sur soi d'être renouvelé et de turbuler, bouger autour de soi pour se ventiler, se refroidir avec la sueur qui arrive. Tout simplement, il ne faut pas grand-chose. Et la climatisation, franchement, entre nous... Si on peut s'en passer, c'est quand même ce qu'il y a de mieux.
Oui, mais vous et moi, nous sommes Français. Hein, mais je sais que la clim en France n'est pas très utilisée. Mais quand on voit, quand il y a des grosses chaleurs comme en ce moment, où les petits vieux tombent comme des mouches, au moins ici, il y a des restaurants où on peut aller se réfugier.
Ah, mais ça, c'est très important.
Il y a des cinémas.
Des centres commerciaux.
Alors qu'en France, il n'y en a pas.
Non, c'est vrai. Si, il y en a dans les cinémas et beaucoup maintenant dans les restaurants. Mais c'est vrai que je parle de la climatisation chez soi et à haute dose. Il fait 30 degrés, il ne faut pas mettre 15 degrés.
Ah non.
Voilà,
non,
il faut mettre 26 degrés.
C'est ça, exactement.
Voilà, c'est ça l'utilisation de la clim.
Bravo, merci François, j'ai appris plein de choses.
Bah, tant mieux.
J'ignorais que je perdais 2 litres d'eau, je vais m'empresser de prendre 2 litres de rosée. Non, c'est
voilà,
pas vrai.
Voilà, c'est ça.
Je plaisante, je
Mais alors à ce moment-là, avec le rosé, il faut mettre des glaçons.
Oui, il faut faire une piscine, comme on dit à Nice. Ça s'appelle une piscine, ça veut dire beaucoup plus de glaçons que de rosé. Voilà, merci infiniment François Baruel, c'est toujours très inspirant ce que vous nous apprenez. Restez des nôtres, hein. Encore de super beaux sujets dans la deuxième demi-heure, notamment un gros plan sur Astérix et sur Kéroul.
Ah, super.
Vous écoutez Aime l'été.
Et toujours avec Clotilde Seille et François Baruel. François qui vient de nous faire une chronique vraiment superbe sur la chaleur, sur la transpiration. Ne manquez pas, hein, si vous voulez réécouter ça, là vous vous dites « Ah zut, j'ai manqué ça ». Non. Vous allez sur le site de Canal M, soit en passant par Vues et Voix, ou même si vous faites Canal M, vous allez trouver ça tout de suite sur Internet. Émission Aime l'été, et vous allez pouvoir très rapidement réécouter cette émission-là quand bon vous chante. Et c'est vrai pour toutes les émissions de Canal M qui sont présentés dans notre programmation, qu'elle soit estivale ou qu'elle soit en saison régulière. Mon petit François, on va partir en musique ce début de seconde partie. Famille Isabelle Ducharme, on va voir ce qui se passe du côté de Kéroul et ensuite on va fêter les 60 ans d'Astérix le Gaulois.
J'ai toujours aimé les filles de mon âge. Elles m'ont tout donné sous leur maquillage. Leurs paupières qui pleurent des rivières, le rouge à lèvres, peinture de guerre, leurs joues flétries d'avoir trop ri, les mèches blondes. Cacher le gris. J'ai toujours aimé les filles de mon âge. Avec les années, elles sont pas plus sages. On on a plein de choses à se raconter, nos mensonges et nos vérités, les amours qu'on a traversés, surtout celles qui nous ont blessés. On grandit ensemble, on vieillit ensemble, il faudra bien partir. Qu'un fragment d'éternité dans ma petite tête, je le fais courir, je l'arrête dans mes rêves secrètement. On grandit ensemble, on vieillit ensemble, il faudra bien partir ensemble. On va danser ensemble et faire notre dernière sortie.
Les filles de mon âge, par Robert Charlebois.
Merci beaucoup, Maurice. Kéroul, c'est l'incontournable pour les personnes qui vivent avec une mobilité plus ou moins réduite. C'est l'organisme, entre autres, qui travaille à améliorer l'accessibilité pour ces personnes-là de toutes sortes de sites. On va en parler, en reparler dès maintenant avec Isabelle Ducharme, présidente du conseil d'administration, qu'on connaît bien sûr, sur Canal M. Bonjour, Isabelle.
Bonjour, ça va bien?
Ça va bien, toi?
Oui.
Bon, alors, pour présenter un petit peu, si par hasard, parce que je sais que nous avons des nouveaux auditeurs, Isabelle, qui se joignent à nous très, très régulièrement, qui découvrent Canal M, qui découvrent M l'été, qui ne connaissent peut-être pas Kéroul. Voudrais-tu nous rappeler, s'il te plaît, en quelques mots, ce qu'est Kéroul et depuis quand Kéroul existe?
Avec un grand plaisir, d'abord dire que Kéroul va célébrer son 40e anniversaire cet automne. Mm-hmm. Donc, c'est un organisme qui a quand même fait ses preuves. Et depuis près d'une trentaine d'années, on est l'interlocuteur privilégié du ministère du Tourisme. Donc, on a une belle reconnaissance. Mm-hmm. Et ce qu'on fait dans la vie, c'est, vous l'avez dit, la mission, c'est de rendre le tourisme et la culture accessibles à tous. Et ça veut dire qu'on fait autant des... On travaille avec l'industrie touristique, donc on va aller évaluer les lieux, on va leur donner une cote, on va les conseiller s'ils ont besoin de faire des choses, se rendre accessibles. On va donner de la formation aux employés qui travaillent en première ligne, donc qui vont être en contact avec les visiteurs, les touristes. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on fait aussi toute la partie faire connaître ces établissements-là, ces activités à la population en général, donc celle qui a des limitations, comme vous l'avez dit, qu'elle soit physique, motrice, visuelle, auditive, peu importe. Mais donc avec une évaluation détaillée dans les situations où, quand on donne une cote, c'est principalement en fonction de la limitation motrice. Donc une accessibilité complète va avoir la cote accessible, ça veut dire on a accès, comme tout le monde, à tous les aspects d'une activité ou d'un lieu. et on va donner une cote partiellement accessible à ce moment-là aux endroits où peut-être qu'il y a des petites lacunes, peut-être que c'est un parc, puis il y a des endroits où c'est plus pentu.
Oui, où il y a des gravillons, là, comme des petits cailloux.
Marches.
Exactement. Donc, s'il y a une marche, on va le qualifier de non accessible.
C'est ça.
Et si c'est, je sais pas moi, un musée qui a une salle de bain, c'est une vieille bâtisse, puis la toilette est trop étroite, la salle de toilette est trop étroite pour rentrer avec un fauteuil roulant, bien, on va le mentionner à l'avance. Comme ça, les gens le sauront avant de se déplacer.
Et comment est-ce qu'on fait pour profiter, si je puis dire, de votre organisation et même de participer, du coup?
En fait, c'est si on veut savoir un peu qu'est-ce qui se passe au Québec, puis visiter le beau Québec qu'on a en fonction de nos besoins spécifiques, il faut utiliser le meilleur outil, c'est le Québec pour tous, dont on vient de lancer, c'est un magazine et qui sort annuellement, mais aussi un site web permanent. Donc, le magazine, dans sa troisième édition, nous donne les nouveautés depuis les deux dernières éditions. Ça va en même temps, donc on va se concentrer sur Montréal, Québec, mais on va parler aussi de ce qui se passe dans les régions du Québec.
Oui.
Et on fait un petit topo, on développe un peu plus sur l'aventure en plein air pour les gens que ça peut intéresser. On va parler d'hébergement, transport, etc. Et on va aussi parler de qu'est-ce qu'on peut avoir comme service quand on veut voyager. Donc ça, on retrouve ça quand même. Cette année, on est rendu à 1800 établissements qu'on a évalués, soit accessibles ou partiellement accessibles. Ce sont des établissements, comme je disais, qui sont dans toutes les régions du Québec.
Okay.
Le gros avantage du site web, c'est que le magazine nous sert un peu pour nous titiller, pour nous donner l'envie d'aller fouiller un peu plus loin.
C'est
Et sur le site web, à ce moment-là, on a vraiment une plus grande panoplie d'informations. Mais on a aussi l'avantage de la géolocalisation. Donc, si on choisit qu'on veut aller voir le musée de l'abeille, on clique sur musée de l'abeille, puis ça va nous dire est-ce qu'il y a un hébergement pas loin, est-ce qu'il y a un restaurant pas loin, etc. Wow. Donc, c'est une chose qui est quand même, un aspect qui est quand même intéressant là pour le voyageur qui veut se déplacer puis qui veut pas faire juste un aller-retour ou qui veut tout simplement visiter plusieurs attraits dans une même journée.
On peut visiter absolument tout le Québec?
Oui, on a... c'est sûr que les régions plus éloignées vont avoir moins d'établissements pour l'instant.
Accessible, oui.
Évidemment.
Mais nous, ce qu'on espère vraiment, c'est qu'avec cet outil-là, que les gens, justement, en région, vont voir qu'il y a des touristes qui sont en situation de handicap, qui ont envie de voyager et qui vont faire l'effort de se rendre accessible. D'ailleurs, je ne sais pas si les auditeurs ont vu passer, mais le ministère nous a donné un montant de 5 millions qui est sur 5 ans, qui n'est pas pour notre fonctionnement à nous, mais vraiment totalement dédié aux établissements qui veulent se rendre accessibles. Donc, dans les prochaines années, on devrait voir de plus en plus d'endroits bien adaptés. Il y a beaucoup de volonté. On nous disait souvent que les attraits sont des petits attraits au Québec, donc souvent moins de budget. Alors maintenant, on leur offre cette possibilité-là. Fait qu'on devrait en voir de plus en plus. Mais comme je vous disais, il y a quand même déjà 1800 établissements de mentionnés dans le Québec.
Ah, c'est énorme quand même.
Ah oui, hein, oui. C'est quand même...
Et ça va de l'activité pour de l'agrotourisme, pour du bien-être, pour de l'activité sportive, l'écotourisme, des loisirs. On peut aller dans des thématiques plus spécifiques là, dans les itinéraires suggérés. On peut l'avoir parce qu'on aime visiter des patrimoines religieux ou on aime visiter les musées, etc. Donc, il y a vraiment une panoplie de possibilités qu'on peut soit se faire son propre itinéraire ou en suivre un qui est déjà établi. Et on a aussi pensé à faire des itinéraires un peu plus courts, comme de 2 ou 3 jours, des itinéraires un peu plus longs sur 7 ou 8 jours. Il y a des activités autant pour les familles que pour partir en couple, ou etc. Donc, c'est quand même assez détaillé comme information là, pour guider le touriste ou même j'ai dit tourisme, en fait, tout Québécois ou personne de l'extérieur.
Oui.
Et ce qui est intéressant aussi, bon, nos auditeurs sont majoritairement francophones, mais il faut aussi penser qu'ils ont peut-être des amis qui viennent de l'extérieur. Le site est également disponible en anglais, donc c'est aussi facile là, pour la personne qui peut-être est sa langue première et plus l'anglais. Il est facile à naviguer, là, c'est exactement la même information.
Isabelle, il nous reste une petite minute. François, vous aviez une autre question.
Oui, je voulais savoir comment est-ce qu'un établissement qui désire justement s'inscrire avec vous peut le faire et comment est-ce qu'il fait pour vous contacter? Est-ce qu'il reçoit des subsides pour s'en former aussi?
Oui, en fait, oui.
C'est très court, hein, parce qu'on n'a qu'une minute.
Oui,
je suis
pas désolée, grave.
Hein. Il faut simplement appeler chez Kéroul, 514-252-3104. Ou nous envoyer un courriel info avec un s at kéroul.qc.ca. Kéroul, c'est K-E-R-O-U-L. Puis pour le fameux Québec pour tous, c'est tout simplement lequebecpourtous.com. Et oui, les établissements peuvent communiquer avec nous, ça nous fait plaisir, on évalue. Et ensuite, il y a la possibilité d'avoir jusqu'à 50 000 en subvention pour se rendre accessible.
Isabelle, on aurait bien sûr encore 10 000 questions, mais bon, on va...
une deuxième fois.
Exactement.
Eh oui, voilà, c'est ça.
Regarde, Isabelle, tu vas appeler Claire Guérin, qui est à la recherche, tu vas lui dire, écoute, Clotilde, elle avait encore plein de questions, et puis elle va te rebooker un mardi, et on va entre autres parler de ce qu'il y a de nouveau cet été chez Kéroul. Ça marche?
Parfait.
C'est
excellent.
Merci. Salut, Isabelle.
Bye-bye.
Viens, petite fille, dans mon comic strip. Viens faire des bulles, viens faire des...
Whip,
des
clip, crack,
des,
bang,
des,
bang,
des
bang,
et des...
Zip, shabam, pow, blop, whew.
Je distribue les swings et les uppercuts. Ça fait,
yam,
ça fait,
splash,
et ça fait...
Stop,
ou bien,
bang,
ou
on,
parfois même...
Zip, shabam, pow, blop, whew.
Viens, petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blanc,
et des
zip, shabam, pow, blanc, whew.
Viens avec moi par-dessus les buildings, ça fait
whin,
quand on s'envole et puis
cling,
après quoi je fais
tilt,
et ça fait
boing, shabam.
Comic strip, viens faire des bulles, viens faire des
whip,
des
clip, crack,
des
bang,
des
blop,
et des
zip, shabam, pow, blop, whew.
N'aie pas peur, bébé, agrippe-toi, je suis là,
crash,
pour te protéger,
schlack,
ferme les yeux,
crack,
embrasse-moi,
slack, shabam, pow, blop, whew, shabam.
Le genre de petite bulle qu'on peut retrouver sur les dessins animés, schlack, et puis schlack, voilà. Bref, ce qui avait inspiré Serge Gainsbourg dans cette chanson-là qui s'appelle toujours d'ailleurs Comic Strip et qui était chantée pour l'occasion par Gainsbourg et Brigitte Bardot. Astérix a 60 ans, j'avais eu l'occasion d'en parler, François et tout le monde, dans l'émission des livres plein les oreilles, parce que je trouvais que c'était quand même un événement qui méritait d'être souligné, d'autant plus que maintenant, on peut réellement se glisser entre les oreilles deux livres d'Astérix.
Ah oui?
Oui, grâce à la maison Audiolib, en France, ils ont fait appel à des comédiens fantastiques. Là, on parle plus... C'est presque du théâtre, si vous voulez, en son. Et là, évidemment, il n'y a pas l'image, il n'y a rien que de la lecture en tant que telle. Mais ils ont fait un boulot vraiment formidable. J'avais même eu l'occasion d'en parler avec la directrice d'Audiolib, Valérie Lévy-Soussan. Et qui m'avait dit tout le plaisir et le bonheur que ces comédiens avaient eu à enregistrer ces lignes tellement célèbres, avec ces personnages tellement célèbres. En plus, ils n'ont pas hésité à mettre ce qu'on appelle des bruits de fond, des bruits, des clinch, clong, bam. En tout cas, vous savez, alors c'est vraiment très vivant, c'est très bien fait. Juste avant, peut-être qu'on écoute un extrait d'à peu près 5 minutes qui va nous remettre en mémoire quelques petits bouts de films d'Astérix et surtout quelques éléments de ces livres audio signés Audiolib. Je vous le disais, il y en a deux. Il y a Astérix le Gaulois et Astérix la Serpe d'Or qui ont été enregistrés. Quelques petits trucs que vous ne savez peut-être pas sur Astérix. Lorsqu'ils ont décidé d'inventer ces personnages Goscinny et Uderzo, ils ont tout de suite décidé qu'il fallait que tous les noms finissent par X. Et ils ont commencé. Alors, il fallait que le nom du héros principal commence par un A. Ils avaient décidé qu'il fallait que ça commence par un A. Et il y avait tellement de gens qui avaient du mal à dire un astérisque et qui disaient un astérix, qu'ils ont dit, voilà, le premier nom qu'on va donner, ce sera le mot astérix. Alors bon, après, évidemment, entre jeu de mots et calembour, on a vu venir au monde Obélix pour Obélisque, Assurance Tourix pour,
ben oui, bien
pour
sûr.
Assurance Tourix, oui. À bras raccourcix pour un bras raccourci, etc., etc. Il y en a ô combien. Alors, faut-il le rappeler hein, que l'histoire repose sur les aventures des habitants d'un petit village fictif, placé sous l'occupation romaine.
Qui résiste toujours.
Qui résiste toujours à l'envahisseur et à ce Jules César qui est à leur tête. Mais pour résister au temps, eh bien, ils disposent, vous vous en souvenez, d'une botte secrète, la fameuse potion magique qui leur donne un pouvoir incroyable. Et cette potion magique dont Obélix ne peut absolument pas toucher parce qu'il est tombé dedans quand
tout
il
petit.
Était petit et que donc il en a conservé absolument tous les bienfaits. Le premier album donc est né en 61, Astérix le Gaulois. Il s'est tiré seulement à 6000 exemplaires. Mais l'album suivant, La Serpe d'Or, il s'en est vendu 20 000 exemplaires. Et le troisième, Le Combat des Chefs, a vendu 400 000 exemplaires. Ouais, imaginez en si peu de temps le succès incroyable. Ouais. Aujourd'hui, il existe 35 albums d'Astérix, un petit peu plus d'ailleurs, je pense. On doit être rendu à 37 avec le petit dernier. Alors, c'est pour ça qu'au vu de ce succès phénoménal, ils ont décidé de sortir de la BD et d'en faire des films. Alors, ils ont fait un premier film dont personne ne voulait. Les producteurs ont dit non, non, ça sortira.
Ça marchera jamais.
Ça marchera jamais. Finalement, en plus, on veut même pas, une fois que le film a été fait, il n'y avait pas une salle qui voulait le programmer. Là, les gens disaient, voyons donc, il n'y a pas personne qui va se déplacer. Finalement, les Français se sont rués dans les salles de cinéma pour découvrir Astérix sur grand écran. Et ensuite, eh bien, merci ici, entre autres, à Télé-Québec de nous les diffuser abondamment à chaque Noël. Mais tous ces Astérix que l'on voit régulièrement, comme Astérix et Cléopâtre, ou encore les 12 travaux d'Astérix, et tout ça, sont nés sur grand écran. Et plus récemment, d'autres films qui ont encore connu, notamment avec Gérard Depardieu dans le rôle d'Obélix, le succès qu'on ne pensait peut-être pas, mais ça marche à tous les coups. Alors voilà, assez bavardé, je vous propose tout de suite un extrait. Vous allez reconnaître quelques Astérix extraits des films et vous allez entendre quelques extraits des livres audio produits par Audiolib.
Il frétille, il est tout frais.
Ça sent le poisson d'en face.
Le poisson
pas frais. Voilà ce que ça sent.
Viens me le dire ici qu'il est pas frais.
Ben oui, je viens. Même gêné.
Ah, voilà le printemps, Astérix.
Oui, le village se réveille. Je connais.
Le lion de Cléopâtre.
Le lion de Cléopâtre.
La lion de Cléopâtre.
C'est le lion de Cléopâtre, c'est le roi des animaux. Du courage comme quatre et de l'esprit.
Alors ça zéro, hein.
Plus. Il me sent nauséeux. Mes jambes sont toutes molles. Qu'est-ce qui m'arrive maintenant?
Audiolib présente Astérix le Gaulois. D'après l'album de René Goscinny et Albert Uderzo. Avec les voix de Jean-Claude Donda, Guillaume Briat, Bernard Allan, Féodor Adkin, Emmanuel Curtil et Benjamin Bollen. Raconté par Dominique Pinon. En 50 avant Jésus-Christ, nos ancêtres, les Gaulois, avaient été vaincus par les Romains, après une longue lutte. Des chefs tels que Vercingétorix doivent déposer leurs armes aux pieds de César.
Aïe, tes pieds !
La paix s'est installée. Troublé par quelques attaques de Germains vite repoussées.
Bon, bon, on s'en va.
Mais attention, on reviendra.
Toute la Gaule est occupée. Toute ? Non, car une région résiste victorieusement à l'envahisseur. Une petite région d'Armorique entourée des camps retranchés de Petit Bonhomme, Laudanum, Babaorum et Aquarium. Tous les efforts pour vaincre ces fiers Gaulois ont été inutiles. Et César s'interroge.
Quid ?
C'est ici que nous faisons connaissance avec notre héros, le guerrier Astérix, qui va s'adonner à son sport favori, la chasse.
Tu reviens bientôt, Astérix ?
Je serai de retour pour déjeuner, Obélix.
Mais quelques mètres plus loin, en embuscade...
Voilà le Gaulois.
On l'aura.
Ipso facto. Zut. Vae Victis.
Qu'est-ce qu'il dit ?
Nous vous le disons, les Romains y perdent leur latin. Un petit bonhomme, camp fortifié romain dans la tente du centurion Caius Bonus.
Ave Caius Bonus, la patrouille est de retour.
Ave Julius Pompilius, je vais aller les voir.
Ave centurion. Ave.
Par tous les dieux. Que vous est-il arrivé à tous les quatre ? Avez-vous été attaqué par une force supérieure en nombre ?
Supérieure en nombre ?
On peut pas dire.
Il était... et pas bien gros avec ça.
Par Jupiter. Il doit y avoir un secret dans la force de ces Gaulois.
Pendant ce temps, au village gaulois...
T'en voici de retour, Astérix. Rien de spécial ?
Non, Obélix. Ah, si ! J'ai assommé quatre Romains.
Oh, bon.
Tu viens manger le sanglier avec moi ?
Je viens dans quelques instants, j'ai encore de menhirs à livrer.
Et un peu plus tard...
Entre, Obélix ! Le rôti est prêt.
Oh, miam, 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 Astérix. Les Romains vont se fâcher. Ils vont lancer une nouvelle offensive.
Bah, tant que Panoramix, notre druide, continuera à préparer sa potion magique, les Romains ne peuvent rien contre nous. Allons d'ailleurs visiter le druide. Il doit être dans le feuillage en train de cueillir le gui avec sa serpe d'or. Panoramix ! Oh, druide !
Tu m'as fait sursauter, je me suis coupé avec ma serpe.
Oh, je m'excuse, Panoramix. Le jour est venu pour moi d'avoir ma ration de potion.
Bon, d'accord, venez chez moi tous les deux.
Ça marche à tous les coups.
À tous les coups, mais à tous les coups.
Ils ont dû avoir un plaisir à enregistrer ça. Ben, beaucoup de travail aussi, mais c'est vraiment extraordinaire. Une petite chose aussi pour faire un petit pied de nez à M. Walt Disney. Les Français ont été tellement fiers de créer en 1989 le parc à Astérix, qui est un formidable parc d'attractions, comme quoi en France, hein, c'est vrai que tout ce qui touche à la Gaule et aux Gaulois.
Ça marche.
Ça marche, oui, oui, ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ils en sortent encore, hein, je me souviens plus, mais là, il y en a un qui est sorti il y a quoi? Il y a peut-être un an, un Astérix, il me semble.
Ouais. Il y en a un prochain qui s'en vient à l'automne.
À l'automne, merci Maurice. Est-ce que tu sais sur quoi ça va porter? Non, tu sais pas. Bon. François, on va se quitter, quoi, une petite minute ou deux, le temps de lancer quelques auto-promos. On se retrouve tout de suite après. Ah oui, on a notre célébrissime maintenant billet sur les billets cognitifs de mademoiselle Emmanuelle Robitaille, ouais, que nous allons retrouver avec plaisir.
Avec impatience.
Et puis j'ai hâte de faire une visite avec vous. Vous connaissez-vous Ex-Muro?
Non.
À Québec.
Je vais justement découvrir ça. Ça me passionne. J'ai lu quelque chose dessus et ça me passionne, ça.
Parfait. Restez avec nous. Vous êtes en compagnie de François Baruel et Clotilde Seil à l'émission Aime l'été sur Canal M.
Vous écoutez Aime l'été.
Et c'est à nouveau François et Clotilde dans votre compagnie. François, on va tout de suite, ou du moins après la chanson, accueillir Emmanuel Robitaille avec un de ses biais cognitifs. Puis après, un sujet qui devrait bien vous passionner, j'ai l'impression. Vous vous êtes informé là-dessus. Ça a l'air de vous parler Ex-Muro.
Ex-Muro, oui.
Sous-titre. Moi, j'ai appelé ça « Ou comment ne pas marcher idiot dans les rues du Québec ». Alors, on y va en musique.
J'envie la beauté.
dans le film La vie est un long fleuve tranquille qu'il y avait cette phrase absolument délicieuse dite par la mère de famille. C'est lundi, c'est ravioli. Et ben nous, c'est mardi. Et le mardi, c'est le jour d'Emmanuel Robitaille. Bonjour Emmanuel.
Bonjour, mais ça finit pas un i, je suis désolée.
Oui, franchement, ouais. Alors Emmanuel
Robi.
Voilà. Comment ça va?
Ça va bien. Un petit biais?
Hein? Un petit biais, parce qu'on se rappelle que les mardis, voilà. C'est les mardis psy, entre guillemets, on s'amuse, on fait un petit voyage dans notre cerveau, non pas anatomiquement parlant, mais on regarde comment il fonctionne, et des fois, il fonctionne pas tout le temps optimalement. Il nous joue des petits tours, quelquefois comme nos yeux le font d'ailleurs, et comme nos oreilles le font d'ailleurs, et on parle de biais cognitif, et on rappelle, comme à chaque semaine, que ce n'est pas un biais de train.
Non! Décaissé, rappelez-nous, mais décaissé.
C'est décaissé qu'un biais.
Mais oui.
Un biais cognitif.
Un petit biais. Pas une petite biais, un petit biais.
C'est un métier, un biaisé.
On se rappelle, ce sont des raccourcis.
C'est ça.
Que notre cerveau va prendre pour émettre un jugement ou prendre une décision qui passe absolument pas par l'analytique, par le rationnel, mais qui a la prétention de le remplacer, ce qui nous mène malheureusement souvent à avoir des pensées qui sont fausses, à lire la réalité ou à tirer des conclusions qui sont, comme le dit le terme, biaisées. Mm-hmm. C'est ça, un biais cognitif. Et pourquoi, j'entends ta question Clotilde, j'entends ta question François, mais pourquoi Emmanuel aurais-je tendance à utiliser ce biais s'il me mène au large, hein, dans le champ?
Comme une lame de fond.
On les utilise, tout le monde les utilise, tout le monde à un moment ou à un autre, on a nos préférés, mais on s'en sort pas vraiment, à moins qu'on les connaisse. On les utilise quand on manque de temps pour émettre un jugement sur une situation, quand on manque d'intérêt pour bien comprendre quelque chose, on va y aller rapidement.
Mais
on va botcher un peu la réflexion.
Non, mais je comprends.
C'est un petit peu ça. Quand on manque d'informations sur le sujet, on a tendance à combler, le cerveau humain aime pas les vides. Ou encore qu'on manque littéralement de capacité analytique. On a de la misère à analyser cognitivement, on n'a pas les aptitudes pour le faire. Ou quand on veut se protéger, se préserver, bref, quand ça fait émotionnellement...
Notre affaire.
Ou moralement notre affaire. OK. Et après le billet de confirmation qu'on a vu, on accumule les preuves qu'on a raison et on discrédite tout ce qui nous donne tort. Et le biais d'autocomplaisance qu'on a vu la semaine dernière. Donc, je m'attribue mes succès et je me déresponsabilise de mes échecs en les remettant à des causes extérieures hors de mon contrôle. Cette semaine au menu. Le biais rétrospectif.
OK.
Ah, ça doit sonner... Lexicalement parlant, il y a une sémantique ici. Rétrospectif.
C'est pas quand même assez proche de l'autocomplaisance? Rétrospectif,
non.
Parce qu'il y a de la rétrospection, justement.
Il y a de la rétrospection, mais on n'est pas dans s'attribuer un résultat ou ne pas se l'attribuer. On n'est pas dans une cause ou dans chercher un coupable. Mais en même temps, on parle de responsabilité. Regarde-moi bien aller. Mais j'entends ta question. Mais c'est plus la tendance à surestimer, une fois qu'un événement est passé, comment on le jugeait prévisible et probable.
Ah!
C'est un biais qui se manifeste en deux tendances. La première...
Compris.
Ah, toi, ça t'en rejoint-tu, là?
Tous tes petits biais m'ont rejoint, mais j'ai rien.
Alors, la première, on entend qu'on surestime des événements imprévus après coup, en les considérant comme plus prévisibles qu'ils ne l'étaient réellement avant qu'ils surviennent. Et la deuxième tendance, comment ce biais-là se manifeste, c'est la tendance à rationaliser l'événement, encore une fois, souvent imprévu, à posteriori, en y voyant des nombreux signes spécifiques précurseurs qui sont passés inaperçus avant l'événement. Donc, on repasse le avant et on accumule les preuves que ça s'en venait. Mais on sait très bien, avec le biais de confirmation, qu'on va aller chercher toutes les preuves qui nous confirment.
Qu'on avait raison.
Et en plus que la mémoire est déjà biaisée d'avance, notre mémoire nous ment constamment, bien là, on a deux fois plus de chances de se tromper. Ouais. Comment ça sort, ce biais-là, dans nos bouches? Vous savez, depuis le début, je l'ai vu venir. J'aurais pu te le dire, c'était évident. Et on le fait tous, hein? Juste à la fin d'un film. Hey, je le savais que c'était lui le tueur. Au début, il a regardé l'autre de même. Puis là, mais si je le retourne te voir à ce moment-là du film, je te demande c'est qui le tueur, crois-moi qu'il y a beaucoup de chances que tu le sais pas. Mais après... Après, tu regardes le début du film à la 11e minute, puis tu fais « Hey, là, j'aurais pu te le dire que c'était lui le soir. » Bon, Et c'est des choses un petit peu pires qui peuvent arriver aussi, comme par exemple, quelqu'un va décéder. Et on va dire, ah, ben en même temps, ou il va tomber malade, quelqu'un va tomber malade, et on va dire, ben en même temps, tu sais, vu son hygiène de vie.
Ah oui, c'est
c'était,
ça.
C'était facile de le voir venir, hein? Non, mais on s'entend, là. La situation économique, l'état de sa voiture, c'était évident que ça allait arriver, hein? Bon, premièrement, ça gosse tout le monde. je te l'aurais dit, j'aurais pu te le dire, je le savais.
C'est vrai que c'est odieux
fatigant.
D'entendre ça. Ouais.
C'est fatigant.
Odieux.
Non, mais
absolument.
Premièrement, on est désagréable quand on fait ça.
Ou alors, à la limite, pense-le, mais elle
ne le dit pas. Elle ne dit jamais ça.
Mais on ne le fait pas pour rien, même si on est désagréable l'instant d'un moment. Pourquoi on le fait, selon vous?
Pour se conforter, pour se donner une certaine justification sociale. Un rôle.
Oui, bah pour
se soigner sa personnalité, pour se donner une bonne conscience. Ou pour se donner des compétences.
On n'aime pas les imprévus. On n'aime pas s'être fait avoir. Ouais. Surtout quand c'est un événement qui ne cadre pas avec ce qu'on pense qui est souhaitable qui arrive. Le cerveau n'aime pas le hasard et il a surtout besoin de trouver des causes à effet pour donner sens à tout. Et ça nous donne surtout un sentiment de contrôle sur les choses qui nous ont glissées entre les doigts et ça nous rassure.
Ah, parce que ça,
rationaliser tout ça.
Parce que l'absence de contrôle, ça fait de mal à l'âme.
Oh ouais. Alors, c'est une façon pour nous de reprendre le contrôle sur quelque chose qui nous a glissé entre les doigts.
T'as raison.
Par contre, ça nous aide pas bien à bien évaluer une situation et accepter qu'on contrôle pas tout. Ça peut aussi être très dangereux. Et là, ça va te parler, François, dans le cas d'un médecin. Dans le cas d'un avocat, dans le cas d'un président qui a fait une faute, à qui on dit « ça aurait été facile de l'éviter ». Te rends-tu compte de l'importance, de la gravité, ce qui fait que ça va créer des relations basées sur le blâme. Et on va perdre confiance en des gens qu'on n'aurait peut-être pas dû perdre confiance, et donc en soi aussi, également. Donc, s'il vous plaît, rappelez-vous et rappelons-nous que notre mémoire est biaisée et le biais de confirmation d'aller chercher tout ce qui nous donne raison va rajouter une autre affaire là-dessus. Fait que, tu sais, ce qui s'est passé avant, là, on peut le laisser. On ne l'a pas vu venir. Faire l'exercice de la présomption d'innocence, hein, un petit peu. Là,
c'est ça.
Et revenir dans notre état d'esprit avant l'événement et se rappeler qu'on ne savait pas. Se demander si je m'étais posé la question à ce moment-là, j'aurais-tu vraiment su? Ça redonne un petit peu d'humilité et de recul.
Merci beaucoup de m'avoir donné matière à réflexion pour cette semaine.
Ah oui.
Tout le plaisir est pour moi.
Emmanuel Robitaille.
De la base au sommet, il n'y a que quelques phrases. Je fais mine comme tout le monde de croire que ce qui compte, présenté en façade, même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade. Homme ou femme, je ne vois caché derrière un mur de données. Je nous vois unanimes, multiples pseudonymes. Je fais mille de mille feux. Même si juste derrière, sans doute des déserts en cascade.
C'était Cascade par Jérôme Minière.
Bonjour Vincent Roy. Bonjour Vincent Roy.
Allô?
Allô, allô?
Monsieur Roy? Ah, monsieur Vincent Roy n'est plus là.
Le roi se fait attendre.
On pourrait peut-être dire qui c'est, ce monsieur Roy.
Bien sûr, il s'agit du directeur artistique de Ex Muro. Alors, je trouve ça très intéressant parce qu'en fait, il s'agit de manifestations artistiques et aussi architecturales au sein de Québec.
Oui.
À propos de dans les rues et dans les vieux quartiers
de
Québec.
Pour, comme je disais tantôt, pour marcher intelligent, quoi. C'est-à-dire pour découvrir des choses. Est-ce que c'est bien ça?
C'est ça, exactement. Alors, donc, il va y avoir des œuvres qui vont être ici et là.
Oui.
Mais il va y avoir aussi, j'imagine, et c'était ça que je voulais savoir, est-ce qu'il allait mettre en valeur des œuvres architecturales de Québec.
Oui, oui, oui.
Allô,
il est là,
Vincent
monsieur.
Oui.
Ah, ben voilà.
On s'est dit, tiens, ça y est, il est parti prendre une petite marche, dis donc.
Désolé, c'est les joies de la technologie. On est supposé d'améliorer les communications, mais...
Parfois, il y a un mur. Alors justement, voilà. À propos, Ex-Muro, c'est une exposition d'architectes, d'artistes aussi au Québec.
Oui, exactement. Ça s'appelle Passage Insolite. C'est un parcours d'œuvres, c'est un parcours libre. Cette année-là, on est rendu à la 6e édition et on a 12 d'œuvres et installations à travers un quartier bien ciblé. C'est le quartier du plus touristique, là, du Vieux-Port, la Place Royale, le Petit Champlain. Et pour la première fois cette année, on déborde de ces quartiers centraux et on s'en va vers le quartier Saint-Roch, vers le centre-ville. Donc, de plus en plus, là, on a un parcours plus généreux qui s'étend parce qu'on a une demande aussi. Hein, c'est quelque chose qui plaît vraiment beaucoup aussi.
Ah oui, hein?
En général, oui.
Aux touristes, donc, ce sont des gens beaucoup qui sont des étrangers, qui viennent en vacances et qui... On fait comment, d'ailleurs, pour vous connaître?
Ben, en fait, nous, Ex Muro, c'est l'organisme qui est derrière les Passages Insolites. Ça fait 12 ans qu'on existe et on fait spécialisé dans l'art public temporaire.
D'accord.
Donc, Passages Insolites, ben, toutes les informations sont sur un site Internet, au passagesinsolites.com. Il y a la carte, on peut télécharger aussi la carte, etc. Tous les outils de communication sont là. Sinon, sur place, aussi ben les œuvres. C'est sûr que dans les quartiers touristiques, il y a beaucoup de touristes, évidemment. Mais on a remarqué qu'on a fait des études aussi d'achalandage. On a remarqué qu'il y a beaucoup de monde de Québec qui reviennent, qui font le tourisme dans sa propre ville, se réapproprient les quartiers historiques, puis viennent faire le parcours. Donc c'est comme
grâce à ce parcours, en fait,
de prétexte intéressant pour revenir voir les vieux quartiers. Puis nous, on travaille beaucoup, c'est de l'art contemporain, donc l'art actuel, et ça fait vraiment un contraste intéressant entre l'aspect
vieillot,
ancien et nouveau,
France, etc., avec de l'art contemporain. Donc ce contraste-là fonctionne très bien.
Mais qu'est-ce que font les architectes, par exemple? Quel est leur rôle? Des artistes, j'imagine qu'il doit y avoir des peintures murales, il doit y avoir des sculptures, il doit y avoir des choses comme ça, mais les architectes eux-mêmes, qu'est-ce qu'ils font?
On a on a toutes sortes de choses, hein. C'est vrai qu'on a c'est surtout de la sculpture, on est moins dans la murale, disons, traditionnelle. Donc ce qu'on veut, c'est créer des installations, des fois sculpturales, pour surprendre, pour étonner. Donc quelque chose qu'on n'est pas habitué de voir dans l'espace public, quelque chose qui va vraiment contraster. Le travail des architectes, la majorité, c'est des artistes professionnels. On laisse la place aux architectes parce qu'on a l'impression, c'est vraiment comme une démarche commune. Il y a quand même des atomes crochus avec les artistes, mais ils travaillent un petit peu différemment. Les autres, ils sont plus dans l'idée du mobilier, peut-être, ou de l'expérience donc physique à l'œuvre. Donc, on a un partenariat, nous autres, depuis 6 ans avec l'École d'architecture. Donc, il y a un concours qui est organisé à chaque année spécialement pour une œuvre dans Passage Insolite. Donc, cette année, c'est une œuvre qui était en partenariat avec un restaurant assez réputé à Québec, le Laurie Raphaël.
Ah ben oui, quand même, oui.
Oui, ben hein? c'est même c'est le Laurie Raphaël qui est venu nous voir l'année dernière.
Ah oui.
Les autres, ils sont assez audacieux dans leur...
dans leur vision. Puis on s'est rendu compte qu'on avait aussi des atomes crochus avec la gastronomie actuelle. Ah. Donc, c'est comme les mêmes enjeux, disons, on partage les mêmes enjeux. Donc, eux autres nous prêtent leur terrasse. Il n'est pas, il est plus utilisé l'été pour faire une installation. Donc, c'est une équipe des, de l'école d'architecture qui ont ce mandat.
Et qu'est-ce que l'écho des rêveurs?
L'écho des rêveurs, c'est...
Est-ce que je vous pose une colle? Non.
Mais vous posez une colle parce que les titres...
Alors, je vous lis ce que j'ai sous les yeux. Hein. Un projet et un programme de médiation, une des stations du parcours.
On appelle l'œuvre de médiation, puis l'œuvre... ça, c'est un super projet qu'on a lancé cette année avec... le quartier Saint-Roch, c'est un quartier assez d'une mixité sociale. Il y a beaucoup d'organismes communautaires aussi. Il y a des problèmes du genre de pauvreté, d'intégration sociale. Et on trouvait ça normal, nous, on investit un quartier, ben on va investir aussi des habitants, ceux qui sont déjà présents là. Puis on a travaillé avec trois organismes communautaires, c'est le Pêche Sherpa, des gens qui ont des difficultés, des problèmes de santé mentale. Il y a le café Rencontre aussi du centre-ville, qui est un café, disons, pour personnes, disons, plus problèmes de pauvreté, et le centre culturel de Jacques Cartier. Donc, il y a des artistes qui ont rencontré des gens, peut-être une trentaine au total, ils ont créé des ateliers avec 5-6 ateliers, puis pour construire une œuvre, construire carrément la finalité, c'était de construire une œuvre. Donc, ces œuvres-là, finalement, se déploient dans le quartier, dans le parc Jean-Paul Dallier, qui est un beau parc dans le cœur de Saint-Roch.
Oui.
Et il y a quatre installations, des espèces de personnages. Ils sont partis de mannequins, de structures de mannequins là, en plâtre. Et ils ont accroché toutes sortes de choses selon les échanges qu'il y avait avec les gens, les histoires. Ils ont travaillé beaucoup la céramique aussi. Ça a été très, très intéressant, très enrichissant aussi, à la fois pour eux, que pour nous aussi, c'est toujours des belles rencontres. Hein.
Et l'exposition itinérante Humanorium, qu'est-ce que c'est?
Ben, c'est exactement ce qu'on est en train de monter là, présentement. On est sur le site. C'est un projet qu'on a créé, moi et Eve Cadieu, la co-commissaire, en 2016. On l'a présenté pour la première fois au Québec. Ouais. Une exposition itinérante, mais sous la forme d'une fête foraine. Puis dans le sous-titre, c'est l'étrange fête foraine, c'est pas pour rien, parce que c'est on revient un peu aux fêtes foraines des années début du siècle, avec c'est plutôt des laboratoires ou des choses donc plus étranges qui traitent de l'être humain un peu bizarre. Puis
la femme à barbe et tout ça.
Exactement, on voulait recréer ça, mais avec des œuvres d'art actuelles, d'artistes professionnels. Actuel. Donc, on a on les appelle les attractions. Ils sont sous chapiteaux, sous remorques, des roulottes aussi qui sont transformées. On a un petit cinéma aussi. Donc, ça, c'est super intéressant aussi. Ça dure 6 jours. C'est du 11 au 16. Juillet. Et ensuite, on prend quelques jours de pause et on s'en va à Trois-Rivières aussi. Ça, c'est du 24 au 30, si je me souviens bien.
Oui, parce que c'est juillet. Ça. Vous avez des œuvres qui sont itinérantes, hein, parce que là, s'il y a des gens qui nous disent « Ouais, mais moi, à Québec, j'y vais pas, puis j'y suis pas, puis j'habite loin », vous vous déplacez aussi.
Ben oui, avec cette forme de fête foraine, par définition, ça se déplace.
Ben oui, ça.
On a même un carrousel, un vrai carrousel, qui est créé par le collectif PGL, qui est un collectif assez connu de Québec et au niveau national aussi. C'est eux qui étaient représentants à la Biennale. Ils représentaient le Canada à la Biennale de Venise il y a quelques années. Donc, c'est des artistes importants. Puis, ils ont fait un carrousel à partir de clôtures de sécurité. Donc, c'est un vrai carrousel. C'est une grosse structure avec des clôtures de foule qui sont suspendues. Il y a des chaînes. Et sur les chaînes, sont accrochés des paniers d'épicerie. Donc, les gens embarquent dans les paniers d'épicerie et il y a des pousseurs de carrosses qui poussent, qui tournent en courant et ça fait tourner le manège. C'est vraiment assez impressionnant.
Wow.
Ça, c'est humanorium.com ou sur le site d'Exmuro aussi, vous allez voir ces projets-là en images. Ça va donner le goût d'y aller aussi. C'est un rassemblement populaire aussi. Les gens viennent, sont curieux. Hein, ils voient l'espèce d'imagerie de fête foraine, puis ils sont curieux, puis ils rentrent, puis c'est une exposition en art. Puis on a beaucoup de plaisir.
Et vous intégrez beaucoup de nouveaux jeunes et vous intégrez... puisqu'il y a des concours, en fait, organisés en partenariat avec l'École d'art de l'Université de Laval.
Exactement. On fait toujours une place à la relève, ce qui est super important. La jeune relève aussi, hein, dans les écoles d'art... C'est la jeune relève, donc on a fait le concours cette année.
Vous présentez les résultats des concours?
Oui, c'est ça. Le gagnant a son œuvre réalisée. Donc c'est un beau tremplin aussi pour ces jeunes-là parce qu'ils participent à un projet professionnel puis d'envergure qui est beaucoup vu. Ces passages insolites, on a fait c'est 240 000 visiteurs par année.
Ah,
c'est énorme.
Oui.
Pour une exposition en art visuel, c'est énorme. Donc on est assez contents. Là. C'est une belle vitrine pour les artistes, une belle vitrine pour la ville aussi.
Je comprends.
Aussi. À chaque année, on récupère des œuvres des années précédentes, puis on les entrepose et on essaie de les faire circuler. Donc, si pour ceux qui sont plus près de Montréal, à Longueuil, il y a quatre œuvres qui sont installées à Longueuil, qui étaient issues des éditions précédentes. Et
À Philadelphie aussi?
Pardon?
C'est ça, à Philadelphie, hein?
À Philadelphie, oui, c'est ça, un premier contact avec les Américains. Eux autres étaient intéressés par trois œuvres.
Bon.
Donc, ça fait des petits, c'est très bien. Les gens, je pense, qu'ils apprécient ça aussi. Les municipalités se rendent compte que ça peut être quelque chose d'attractif aussi, de différent, de nouveau, de gratuit aussi, quelque part. Hein.
C'est pas,
puis t'as pas la peur ou la gêne de rentrer dans une galerie, dans un musée, t'es en toute liberté, donc ça, je pense que ça plaît aussi beaucoup.
Ça prend combien de temps pour faire cette marche-là?
Oh là là, quel travail ça doit être.
Oui, ça prend combien de temps?
C'est 4 km au total.
Ah, quand même!
Si on veut faire la boucle au complet, donc c'est quoi, 2 heures, c'est possible, c'est une belle marche.
Bon.
C'est accessibilité universelle aussi. Ceux qui sont en fauteuil roulant, c'est accessible partout.
C'était ma prochaine question. Alors, on peut même y aller quand on est en fauteuil. Bon.
Okay. Ben oui, puis aussi, il y a des œuvres aussi. C'est des sculptures aussi. Les non-voyants, les personnes malentendantes. Je pense qu'il y a plusieurs œuvres qui peuvent intéresser aussi ce genre de public-là aussi, parce que, tu sais, par exemple, les œuvres, on a remarqué, c'est un peu loin de notre réalité aussi, ceux qui ont des handicaps physiques, parce qu'on pense pas toujours...
Non, on en sait quelque chose ici à Canalem.
Oui, ben c'est ça, puis on réalise que on a amené des gens à Emmanorium, puis il y a des sculptures, c'est des têtes avec un moulage, des têtes déformées en résine, puis il y a un groupe de non-voyants qui sont arrivés, puis... D'habitude, on ne peut pas toucher les œuvres.
Mais oui, donc, mais là.
Oui, mais allez-y.
Au contraire.
Ils ont adoré
ça, bien sûr.
C'est des visages êtres humains, mais déformés, comme si
bien sûr.
Un mouvement.
Vincent, Vincent Roy, notre émission dans 30 secondes va s'achever. Et si je ne vous dis pas au revoir, et à mes auditeurs, à nos auditeurs, on va vous couper le sifflet, ce qui serait quand même très désagréable. On vous remercie beaucoup pour votre entrevue, d'avoir accepté. Et puis, bonne saison. Hein, et puis que tout se passe bien. Merci d'avoir été là. François Baruel, merci. Un autre mardi ensemble qui s'achève.
Merci,
on se retrouve
Clotilde.
Mardi prochain. Et ne manquez pas, M l'été, c'est tous les jours sur Canal M dès 11h30. Merci Maurice Bolduc. Merci Louis Garon.